Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, quel bonheur de vous retrouver. On va passer 4 heures ensemble, et oui, l'After Live et puis l'After Foot. Une belle soirée qui se passe forcément en compagnie de Lionel Charbonnier, notre consultant en or. Comment ça va, Lionel ?
Salut Karine, salut à toutes et à tous.
On a un programme de rêve avec notamment l'ouverture de cette troisième journée de Ligue 1. On va partir à Bollard, on sera dans le Nord. Évidemment, il y a toujours une très très belle ambiance. Et ce soir, c'est Lens qui affronte Brest. Notre duo de commentateurs est évidemment placé, Aurélien Tirsien et Jean Baumel. Bonsoir messieurs. Moi je sais ce soir qu'on a tout pour passer une belle et grande soirée. Lens-Brest, ça sent le football, ça va être grandiose.
Exactement, bonsoir Karine, bonsoir Lionel. Bonsoir à
salut
tous,
Gibo.
Salut les amis.
Salut Auré.
Alors messieurs, ça s'annonce grandiose, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour notamment Brest. Lens a eu une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est l'arrivée enfin d'un attaquant, parce qu'il l'attendait hein, cet attaquant. Il y a eu beaucoup de soucis au niveau du mercato. Tu peux nous le dire hein, Jean Baumel,
ils ont Abdallah Sima qui a signé 4 ans, ouais, voilà, c'est fait. Alors c'est un joueur plus de côté, hein. Je ne serais pas surpris qu'il cherche encore un joueur en pointe. Puisque Satriano n'est pas encore disponible. Il y a aussi Sotoka qui est un peu sur la fin. Il faut débloquer la situation devant. C'est le gros souci depuis un an et demi pour le Racing Club de Lens. Mais sinon, globalement, ça avance bien. Et dans le jeu, on l'avait vu contre Lyon. Bah, franchement, on parle beaucoup du début de saison de Lyon, mais le match contre Lens, la deuxième mi-temps, franchement, les Lensois méritaient pas de perdre.
Effectivement, on rappelle qu'il y avait une défaite 1-0, mais dans le contenu, il y avait des bonnes choses. Et puis, il y a eu cette victoire donc sur la pelouse du Havre, 2-1. Jean, est-ce que tu as les compositions d'équipe ?
Exactement.
Est-ce que tu peux nous dire ce que Pierre Sage nous propose ce soir ?
Eh ben, écoute, il n'y a pas vraiment de surprise, puisqu'on a Romain Rissert, peut-être l'une des révélations, on verra. Hein.
Il a fait bon jusque-là.
Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. 21 ans, il vient de Strasbourg. Udol, Sarr, Grady pour la défense à 3. Sur les côtés, piston gauche, Machado, Aguilar à droite. Au milieu de terrain, Thomasson et donc Sangaré qui vient d'arriver, qui remplace Diouf parti à l'Inter. Et les joueurs offensifs, ce sont Wesley Saïd à gauche, Florian Thauvin à droite et le jeune Ryan Fofana qui a marqué au Havre la semaine dernière.
Effectivement, on va reparler évidemment de cette composition d'équipe, mais on va s'intéresser également à l'adversaire Brest avec toi Aurélien. On rappelle que pour Brest, eh ben oui, on a un petit peu moins le sourire. L'an dernier, c'était le bonheur, c'était la Ligue des Champions, c'était une saison compliquée. Puis là, retour sur terre, il y a eu un match nul face à Lille 3-3, il y a eu cette défaite cinglante 2-0 contre Toulouse. Et puis, on a un entraîneur, Éric Roy, qui est un peu déçu parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses visiblement, et donc il perd tous ses meilleurs éléments.
Ben c'est le problème, ouais. L'année dernière, on a fait rentrer beaucoup d'argent grâce au joli parcours en Ligue des Champions qui s'est arrêté contre le PSG en barrage, on le rappelle. Et mais pour un club comme Brest, et ben avec le problème des droits télé, pas beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses avec les transferts, ben l'argent accumulé en Ligue des Champions, ça sert simplement à faire vivre le club encore pour quelques saisons, ce qui est déjà pas mal, parce que si t'assures au Stade Brestois de ne pas partir en banqueroute pendant 3, 4, 5 ans, c'est déjà quand même une bonne nouvelle pour les Brestois. Éric Roy, qui a fait des miracles depuis deux saisons, en terminant d'abord 3ème de Ligue 1, en allant loin en Ligue des Champions, 9ème la saison dernière en Ligue 1, faut rappeler quand même que c'est aussi un des meilleurs classements de l'histoire du Stade Brestois. Donc en fait, il y avait une dynamique qui était quasiment ascendante, sans discontinuer depuis qu'Éric Roy est arrivé tout début 2023. Et là, c'est le premier moment effectivement où ça coince un peu. Le match contre Lille, Gibo, t'as dû le regarder aussi à la télé. Brest qui revient quand même dans le match. Alors il y avait 0-2, ils reviennent à 3-3. Il y a quand même du caractère avec un Kamori Doumbia, par exemple, le meneur de jeu du Stade Brestois, qui est titulaire ce soir aussi, qui a du talent. Il y a encore des joueurs de talent, voilà. Il y a Ludovic Ajorque devant, il y a Hugo Magnetti, il y a un Joris Sautard qui vient d'arriver de Montpellier. Mais l'effectif est un peu court et Éric Roy le sait, il n'y a pas d'argent à Brest. Donc il va falloir être plus que très malin pour Grégory Lorenzi, le directeur sportif, d'ici lundi prochain, pour essayer de faire quelques coups. Parce qu'il y a Pierre Lesmelou qui est encore parti, un joueur très important il y a quelques jours au Paris FC.
Et oui, ça c'était la nouvelle évidemment de la semaine. C'était l'un des cadres. On rappelle que Bizot Camara était déjà parti et Lesmelou c'était évidemment un joueur majeur de Brest, même si l'an dernier on rappelle qu'il avait été une grande partie de la saison blessé. Qu'est-ce que ça nous donne du côté du 11 de départ pour Brest ?
Alors du coup, il n'y a pas trop de surprises. Radoslav Majetski, le gardien prêté par Monaco, est dans les cages.
Un peu en grippe, parce que l'an dernier il a coûté quand même pas mal de points à Monaco, et là on peut pas dire qu'il a été impérial face à Toulouse hein.
Ben, c'est pas un début de saison énorme, ouais, t'as raison, à Monaco, et à un moment donné, il avait pris le dessus sur Philippe Keun, et bon, ouais, il a ses qualités, ses défauts, il a une sélection en équipe de Pologne quand même. Il déçoit un petit peu parce qu'il a déjà 25 ans, mine de rien, donc effectivement, cette année à Brest, ça va être importante, et il prend la suite de Marco Bizot, qui a durablement marqué le stade brestois. Lionel, bon, tu pourras nous en dire un petit peu tout à l'heure.
On va le regarder de près ce soir.
Je finis simplement la compo donc avec une défense à 4, Bradley Loco à gauche, Kenny Lala à droite de la défense, Junior Diaz, le joueur prêté par 3 en charnière aux côtés de Julien Le Cardinal, Magnetti, Del Castillo, Chotard au cœur du jeu, et devant Ludovic Ajoar en pointe, Kamori Doumbia et Mama Baldé pour le soutenir.
Merci beaucoup messieurs, on revient vous voir dans quelques instants, on va parler évidemment de cette dernière semaine de Mercato parce qu'il y a eu des arrivées, il y a eu des départs des deux côtés. Lionel, rapidement un petit mot, Lens-Brest, moi je trouve que c'est vraiment une affiche qui pue le football. Est-ce que pour toi il y a un avantage pour les Lensois? Lens, on sait qu'ils jouent toujours à guichet fermé, mais l'an dernier ils ont eu des vraies difficultés à Bollard, hein.
Exactement, c'est ce qui me dérange un petit peu, c'est par rapport à ce qui s'est passé l'an passé, parce que ce public méritait d'avoir de beaucoup plus de victoires dans devant eux. Ils auraient pu fêter, à mon avis, beaucoup plus de victoires, mais j'ai vu des joueurs, alors soit ils jouaient avec la peur de mal faire et donc ils ont mal fait, soit ils ne sont plus investis comme les joueurs qui avaient fait la montée du RC Lens, qui avaient fait ce public arrivait à s'identifier à ces joueurs, et donc quand le public s'identifie aux joueurs, les joueurs aussi ont envie de bien faire pour leur public, et donc est-ce que c'est ça, est-ce que il est là vraiment le problème, je ne sais pas. En tout cas, j'attends ce soir, j'attends beaucoup à Bollard. C'est quand même une tradition, l'ADN c'est de gagner à Bollard. Il y a le feu dans les tribunes, il va falloir mettre le feu ce soir bien évidemment sur le terrain, mais attention parce que les Brestois, on les a vus, ils sont capables de marquer des buts à chaque fois qu'ils ont été menés, ils ont un gros mental, c'est pas une équipe extraordinaire. Ils ont un gros mental et ils sont capables de marquer des buts. Il y a York, il y a Baldé, il y a du monde pour marquer.
On attend de voir évidemment la réaction brestoise, peut-être ce soir, ou Lens qui gagne enfin à domicile. En tout cas, Pierre Sage, c'est aussi un entraîneur qu'on aime, qui a du talent. Donc on va suivre le Lens version Pierre Sage. On fait le tour des terrains, on part dans le sud, à la Mosson. Il y a un homme que l'on va retrouver, c'est Julien Landry. Bonsoir Julien, en Ligue 2 ça joue, on en est à la 4e journée. Et ce soir, Montpellier, on rappelle, relégué en Ligue 2, reçoit Amiens.
Salut Karine, salut Lionel. Effectivement, c'est parti depuis 8 minutes exactement à la Mosson. Deuxième match de la saison pour les Montpelliérains qui avaient lancé leur saison à domicile contre le Red Star par un match nul et qui retrouvent la Mosson avec une affluence plutôt respectable. Ce soir, on n'est pas loin des 9000 spectateurs. 0-0 pour le moment, légère domination des Montpelliérains qui ont un bilan équilibré. Une victoire, une défaite, un match nul pour le moment, qui sont en train de reconstruire tout à zéro avec Zoumana Camara à leur tête et qui aimeraient bien gagner pour la première fois de la saison à la Mosson. 10 minutes, 0-0 entre les deux formations.
Merci beaucoup Julien. Ça joue sur les pelouses de Ligue 2. Il y a 5 autres rencontres ce soir et on les suit avec vous, Arnaud Valadon. Bonsoir.
Bonsoir Karine, bonsoir Lionel, bonsoir. Salut à tous. Pas de but pour l'instant.
Ah non.
Oui, normalement je suis censé vous amener des buts. Mais un petit peu dans cette soirée. Il y a peut-être ce corner à Nancy, encore un huis clos à Marcel Picot, hein, les Nancyens, la SNL, pour son retour après quelques années de national, va purger son deuxième des 4 matchs à huis clos infligés par la fédération suite à des fumigènes. C'est quand même dommage pour la remontée des hommes de Pablo Correa. Ce corner n'a rien donné. 0-0 face à Pau. Nancy 3e et Pau 2e. Ce sont des co-leaders qui n'ont pas perdu cette saison. Dunkerque en difficulté reçoit 3, là aussi. 0-0, 3 qui est co-leader également avec 7 points vaincus pour l'instant. Et bien le premier but de la soirée vient de tomber, c'est à Paul Lignon. Rodez face à Boulogne-sur-Mer, repêché au dernier moment les Boulonnais. Et bien Rodez ouvre le score sur son terrain à la 9e, 1-0 pour le RAF à l'instant. Et enfin 0-0 entre Laval et Clermont et 0-0 également entre le Red Star et Annecy.
Arnaud, juste pour info, comme ça la Nancy-Lorraine, c'est par rapport à l'année dernière, le
Absolument.
Dernier match, il y a eu les fumigènes, où il y a
usage
eu
répété de fumigènes blessés tout au long de la saison, et donc la Fédération française, parce qu'ils étaient en national, leur a infligé 4 matchs à huis clos total à Marcel Picot. Et là, les supporters se sont rangés, ils se sont mis sur le parking à côté pour essayer de voir le match et être à côté, essayer d'encourager leurs joueurs.
Donc on est bien d'accord, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu, les fumigènes.
Non, usage répété de fumigènes. Et on dit généralement que la 3F est plus sévère, que ce soit avec des joueurs en termes de suspension.
Il faut bien être sévère parce que nos clubs, ils ont tellement d'argent, ils ont les retombées télé, tout a été très bien géré de la part de la Fédé. Donc ils font très bien aussi de sanctionner. pensionnés et les supporters et les clubs pour essayer de renflouer les caisses. Non, c'est bien. Bravo.
Et quatre matchs, ça vous emmène très loin.
On sent l'ironie, hein, évidemment.
Ouais, non, ça m'emmerde. Ça m'emmerde.
En tout cas, à Marcel Picot, il y a toujours une très belle ambiance quand les supporters peuvent être.
Et l'ouverture du score pour Amiens sur un contre-éclair. Ryan Lutin seul au deuxième poteau après un très bon débordement d'Ibrahim Fofana qui est parti dans le dos de la défense. Et le centre, il est parfait vers Lutin qui coupe la trajectoire et qui met ce ballon à l'opposé de Simon Ngapwandwebu, le gardien montpelliérain. Et voilà, comme le Red Star qui avait ouvert le score très tôt à la Mosson il y a trois semaines, Amiens ouvre le score ici à la Mosson. 1-0 pour les hommes d'Omardaf.
Magnifique, vous voyez, on ne rate rien sur RMC, c'est là où ça se passe, les buts en direct sur votre radio préférée. On va se régaler ce soir, franchement on est ensemble depuis quelques minutes, on a déjà eu deux buts, moi je trouve que c'est absolument parfait. On part à New York, on va aller rêver avec l'US Open. Eric Salio est évidemment présent pour nous. Bonsoir Eric. Et puis là, tu vois, je suis déjà heureuse parce que il y a un Gassinois qui a gagné et je suis Gassinoise.
Oui, alors là, je te mets un carton jaune parce
qu'il est né à Gassin.
Il est né à Gassin, mais il se revendique breton.
Oui, mais alors ça, je suis désolé.
Donc là, je ne suis pas cautionné.
Dans le Var, enfin.
Bien sûr.
Ça existe. 83.
C'est une jolie, jolie petite ville.
Oui. Heureusement que j'ai Karine pour me dire où c'est Gassin.
Je peux vous dire qu'il y a une lignée de très grands.
Karine fréquente la baie de Saint-Tropez, donc tu comprends.
Ah, voilà. Pas les mêmes valeurs.
Et il y a une lignée de très grands qui sont nés à Gassin. Je voulais vous
en citer. Les seuls BG, c'est mes chevaux.
Non.
Ils sont bêtes.
Il y a évidemment David Ginola, très grand joueur.
Et il est de Gassin.
Mais il est né à Gassin. Et il y a Ben Seguir également, qui est né notamment à Gassin. Et il y a même Emmanuel Béard.
Il y a 5 habitants, il y a 5 champions avec toi.
T'as vu ça un peu? Ah ben, c'est une pépite. Voilà. Eric, effectivement, il nous rappelle qu'il a quand même plus le cœur breton. Mais vu qu'il est né à Gassin, j'avais quand même envie d'introduire sa victoire comme ça. Parce que.
Oui, tu voulais te faire plaisir, quoi.
Exactement. Exactement.
Oui, tu vas Gassin. Victoire d'Arthur Rinderknecht. Donc, qualifié pour les 8e de finale de l'US Open. Il a remporté le Classico, puisque c'était un match entre Rennes et Marseille, puisque Benjamin Monzi était un fou de l'OM. Victoire en 4-7, 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Et devine quel sera le prochain adversaire de Arthur Rinderknecht, Karine.
Ah ben...
Carlitos.
Carlos Alcaraz. Alors j'ai l'impression que ça va être plus compliqué peut-être. Hein,
c'est possible.
En fin de compte, il est breton.
Là, il est breton. Et puis Adrian Manarino a débuté son troisième tour sur le cours Louis Armstrong face à Ben Shelton, qui est le très populaire ici, et l'Américain mène déjà une manche à 0-6-3.
Merci beaucoup Eric Salio, on est avec toi évidemment pour vivre cette rencontre avec notre Français, donc Manarino face à Ben Shelton. Nous allons rester dans le sud. On était dans le sud à Gassin. On part à Marseille avec Flo Germain. Salut Flo.
Salut Karine. Salut Lionel. Salut à tous.
Flo. Flo, c'est un homme qui a 18 poumons. Il travaille 28 heures sur 24. Il travaille 400 jours par an. C'est hallucinant. Mais ça, vous voyez, ça, c'est la marque des grands. Et quand on suit l'Olympique de Marseille, il faut avoir un coffre de folie. Et heureusement, Flo Germain est armé. Flo, on est ravis d'être avec toi. Et c'était important parce que pourquoi? Nous sommes à J-2 d'un match ô combien important. L'Olympico. Ce match qui passionne les supporters lyonnais et marseillais depuis plusieurs années. Marseille qui nous a fait vivre encore une semaine avec beaucoup de rebondissements. Et puis Lyon qui va très bien parce que c'est deux victoires en deux matchs. Aujourd'hui, il y avait cette conférence de presse. On attendait de savoir beaucoup de choses. Roberto De Zerbi allait-il être accompagné d'Adrien Rabiot? La réponse est non. Mais il en a parlé. Alors qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette journée qui était très attendue par les suiveurs et par les supporters?
On y a à peine cru. C'est vrai que hier à l'antenne, je disais Marseille annonce une conférence de presse avec Roberto De Zerbi et un joueur, pourquoi pas s'engouffrer et voir un Adrien Rabiot qui ferait son mea culpa, mais qui prendrait la parole. On passe à autre chose avec des grosses déclats. En plus, il en est capable parce qu'on sait qu'Adrien Rabiot, face au micro, il n'est pas du genre à trembler. Ça n'a pas été le cas. Pas d'Adrien Rabiot sur la pelouse du centre d'entraînement. On a même eu des regards un peu indiscrets sur certains terrains, le synthétique, le deuxième terrain des pros. On n'a pas vu Adrien Rabiot. On a vu un Facundo Medina, par exemple, trottiné, donc c'est déjà bon signe et ce sera pour un retour après la trêve, mais pas de signe de l'international français. Et effectivement, un Roberto De Zerbi que j'ai trouvé un peu agacé, voire désabusé par cette histoire Adrien Rabiot, parce que lui, il a tendu la main il y a déjà une semaine et depuis, c'est vrai, rien n'a bougé. On est toujours sur un statu quo avec une fin de mercato qui approche à grands pas et toujours pas d'issue dans ce dossier qui pollue un peu l'atmosphère à Marseille à 48 heures d'un gros match contre Lyon.
Tu l'as dit, rien n'est réglé. Je vous propose justement qu'on entende l'entraîneur italien.
Je lui ai conseillé et j'ai répété les conseils que je lui avais donnés. C'était d'aller au club, de s'excuser pour le geste qu'il a fait à Rennes, parce qu'à cause de son entourage, les paroles ont été amplifiées. Ça n'a pas été correct envers le président, envers ses coéquipiers et envers le groupe. Je n'ai jamais imaginé donner des conseils pour changer les personnes. Ce n'est pas du tout le type de personne que je suis. Non, ça ne m'est jamais vraiment passé par l'esprit. Je lui ai donné ce conseil. Pour le moment, il a décidé de ne pas le suivre, donc je n'ai plus rien à dire là-dessus. Dimanche, on a un match très important et l'affaire Rabiot, c'est fini.
C'est entre lui et le club. Voilà les propos de Roberto Desabri.
D'ailleurs, Karine, toi qui aimes les petites coulisses, je t'en livre une. C'est que moi, je suis en train de parler avec notamment une traductrice et une des responsables comme désormais de l'OM qui parle italien, parce que j'ai réécouté le son de Roberto Desabri. Pour moi, il n'a pas exactement dit ce qui a été traduit en instantané. Pour moi, il a dit, si j'ai bien compris, il a lui a demandé de s'excuser, non pas, et ça rejoint nos infos, non pas par rapport à ce qu'il a fait à Rennes, parce que ça, il l'a déjà fait, mais par rapport aux déclats qui s'en sont suivis, notamment de celles de son entourage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il doit endosser la totale responsabilité de ce qu'a dit sa maman, mais simplement, comme l'a suggéré hier Pablo Longoria, qu'il y ait une discussion en adulte, qu'il fasse le premier pas. Est-ce que c'est de la fierté ou que tout simplement l'OM retombe sur ses pattes? Mais en tout cas, pour moi, la déclat aujourd'hui de Roberto Desabri, elle est plus dans le sens de dire voilà, il faut qu'il fasse un petit pas en arrière, qu'il mette de l'ego de côté et qu'on passe à autre chose, plus par rapport aux conséquences et aux déclats qu'au geste à Rennes qui maintenant a été
exactement
un peu oublié.
Moi j'écoutais plus ce qu'il disait en italien, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il demande de s'excuser par rapport à son entourage. Mais c'est pas l'entourage d'aller s'excuser?
Oui, mais en fait, moi je comprends
c'est
ça.
C'est sa mère. Non, moi si j'ai un agent, moi personnellement j'ai un agent qui fait des déclarations. D'ailleurs, l'agent, il y a eu une pour moi, une déclaration. Le reste, l'agent n'avait pas totalement tort. Je parle pas de la mère, je parle de l'agent. Si mon agent fait des déclarations intempestives et qui déplaisent à mon entourage, enfin à mes dirigeants, à ma direction, c'est à mon agent d'aller s'excuser.
Oui, mais Lionel, je te suis, mais tu as excuse. Moi, je pense pas que l'OM attende d'Adrien Rabiot, même si, entre parenthèses, je disais tout à l'heure avec Jérôme Rotten que je commence à trouver cette histoire un peu ridicule. Ça va trop loin, ça devient pénible. Mais bon, peu importe, c'est une parenthèse refermée. Je pense pas que l'OM attende que Adrien Rabiot dise « Je suis désolé pour ce qu'a dit Véronique Rabiot, ma maman ». Je pense simplement qu'ils ont besoin qu'Adrien Rabiot fasse un geste, aille vers l'OM pour discuter de ce qui s'est passé et même peut-être pas qu'il y ait les termes « je m'excuse » ou « je suis désolé ». Simplement, voilà, cette situation, elle a pris des proportions qui nous dépassent tous. S'il vous plaît, passons à autre chose.
Elle a été mal maîtrisée par tout le monde.
Mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça va trop loin. Alors, je sais pas si c'est de l'ego mal placé, je sais pas de quel côté, mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné, il va vite falloir qu'on trouve une issue, parce que j'ai senti un Roberto Desabri, je le disais, agacé, désabusé. Je vois des supporters qui sont un peu désolés aussi qu'on parle autant de cette affaire-là alors qu'il y a un gros match
dimanche.
Et le vestiaire, il a pas d'autre choix que de se concentrer sur le match de dimanche qui, avant une trêve, je te fais pas de dessin, pourrait peser lourd dans les têtes s'il y avait un mauvais résultat. Donc on a expliqué que les leaders étaient plutôt favorables à ce qu'on passe à autre chose et qu'Adrien Rabiot réintègre le vestiaire, et puis après eux, ils sont passés sur le sportif. Et heureusement, même Roberto Desabri, on diffuse ce son-là, mais globalement il a voulu faire passer le message que lui, il avait un gros match à préparer et qu'il ne pouvait pas éternellement parler uniquement d'Adrien Rabiot.
Flo, on va avancer, mais il y a quand même un point important, c'est que nous sommes donc vendredi soir, le mercato se termine lundi soir. Est-ce qu'on est plutôt vers une tendance Adrien Rabiot va rester et on verra comment il est géré derrière, ou est-ce qu'il y a vraiment le forcing pour qu'il trouve une porte de sortie? Parce que là, finalement, ce que nous dit Desherby, c'est que rien n'a avancé parce qu'Adrien Rabiot n'est pas revenu vers sa direction.
Exactement, mais c'est ce qu'on disait hier, et pour moi il n'y a pas de nouveauté, c'est-à-dire on est sur un statu quo dans le dossier Adrien Rabiot. J'avais cette petite formule hier en disant que c'était pas super romantique mais plutôt pragmatique, c'est-à-dire que du côté d'Adrien Rabiot et de son entourage, on continue d'écouter certaines offres, on n'exclut pas la possibilité qu'il reste à l'OM, et après attendons la fin du mercato. En gros, si jamais un club plaît à Rabiot et se met d'accord avec l'OM financièrement, je pense qu'il partira. Après, pour qu'il plaise à Rabiot, il faut que ce soit un club aussi ambitieux, peut-être qu'il joue la Ligue des Champions. Ouais. Je sais qu'il a refusé des offres qu'on juge parfois un peu exotiques. Il a pas envie d'aller dans dans n'importe quel championnat, même si les offres financières sont très intéressantes. Donc voilà, peut-être qu'il ne trouvera pas chaussure à son pied et du coup fin de mercato lundi soir, il faudra que tout le monde trouve un terrain d'entente, une issue positive, un plan de com ou peut-être même qu'on se mette autour d'une table pour envisager la suite ailleurs qu'à Marseille. Je sais pas. C'est point d'interrogation. On a senti Roberto De Zerbi perdu. Je sais que les dirigeants de l'OM n'ont pas forcément une visibilité à 100% claire sur ce qui va se passer avec Rabiot.
On continue sur le mercato parce qu'on l'avait pas vu venir celle-là. C'est le président du LOSC, Olivier Létang, qui était donc présent à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue Europa, qui a mis une petite cartouche aux dirigeants marseillais. On l'écoute tout de suite.
Un accord entre... Je suis surpris, moi, parce que nous, on n'a aucun contact avec l'Olympique de Marseille. Les textes sont assez clairs. Il est interdit, en fait, de contacter un joueur d'un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat. Et aujourd'hui, je n'ai eu aucune demande de l'Olympique de Marseille de pouvoir parler à mon joueur. On est entre nous. Je pense qu'il y a des règles de vie et il y a des attitudes qui doivent être respectueuses. J'ai entendu ce matin qu'y compris l'entraîneur de Marseille avait parlé à mon joueur. Surprenant, mais... On n'a pas une surprise près avec l'Olympique de Marseille. Donc.
Florent, on va parler donc du dossier Zegrova. Ce sont les propos d'Olivier Létang. On sait qu'Olivier Létang s'était déjà accroché par le passé avec des dirigeants de l'Olympique de Marseille, notamment avec Mehdi Benatia l'an passé. Qu'est-ce qu'il en est du côté de Marseille? Est-ce qu'on a été surpris de cette sortie?
On a assez peu apprécié les déclarations d'Olivier Létang. Alors pourtant, les relations sont plutôt cordiales normalement, hein, entre Olivier Létang et Mehdi Benatia. D'ailleurs, l'accrochage, en fait, il concernait plus la réaction qu'avait Olivier Létang vis-à-vis du quatrième arbitre, rappelez-vous, en coupe, ouais, lors de OM Lille et Mehdi Benatia qui avait été sanctionné. Mais,
oui,
mais
des sanctions très différentes.
Voilà, très différentes, mais au final, il n'y avait pas eu de polémique directement en frontale entre Létang et Benatia. Les deux hommes se respectent. Mais c'est vrai que sur ce dossier-là, il y a une incompréhension. Olivier Létang, visiblement, bon, fait mine de découvrir que peut y avoir des discussions parfois avec un joueur qui nous intéresse. À l'OM, on en est un petit peu interloqué parce qu'il y avait déjà eu des discussions entre Pablo Longoria et Olivier Létang au début de l'été, en fin de saison dernière. Ouais. L'agent de Edin Zegrova avait aussi discuté avec Marseille parce que visiblement le discours qu'ils avaient du côté de Lille, c'est que à un an de la fin de son contrat, Lille était plutôt vendeur et n'entrait pas forcément dans les plans du LOSC. Donc à Marseille, on en sourit, on pense que ça fait partie du jeu des négos. Mais en tout cas, l'info qu'on donnait ce matin, on la confirme, c'est que Zegrova et l'OM contractuellement sont d'accord, et Zegrova est plutôt motivé à l'idée d'aller jouer à Marseille. Après, ça bloque, on l'a bien compris, du côté de Lille, et donc ce sera l'un des dossiers chauds du mercato, sachant que la Juve est aussi à l'affût pour Zegrova.
En tout cas, ça serait une bonne chose niveau sportif. Un dernier mot rapidement, parce que voilà, on parle de mercato, mais il y a un joueur qui est bien arrivé. Traoré s'est fait à Marseille.
Exactement, il a été présenté tout à l'heure. Il est qualifié pour jouer dimanche à Lyon. Donc Ahmed Junior Traoré, qui avait fait du mal à l'OM avec la JOCR la saison passée, que Roberto De Zerbi connaît bien de l'époque Sassuolo. Donc c'est une autre alternative, une autre possibilité. À quel poste et à quel moment? Alors, sûrement pas titulaire a priori dimanche, mais en tout cas une solution de plus offensive pour Roberto De Zerbi, qui en est satisfait après le départ notamment de Jonathan Rowe. Il va amener cette vivacité et cette aisance technique offensivement. Ça peut être intéressant pour le style De Zerbi. Et puis l'autre dossier à suivre, c'est celui du poste de latéral gauche, Karine Lionel, parce que l'OM a besoin de renfort. C'est plutôt Emerson Palmieri, l'italo-brésilien, qui tient la corde, même si l'OM a tenté le coup et il y a des discussions avec Zinchenko et Arsenal. Ce serait très fort de réaliser ce coup-là en fin de mercato, mais a priori c'est plutôt Emerson Palmieri qui tiendrait la corde dans ce dossier.
Merci pour toutes ces infos, Flo. Courage, parce que tu vas avoir beaucoup de travail.
Ciao les amis, bonne soirée.
Mets-toi la tête dans le frigo un peu.
Merci beaucoup,
à bientôt, ciao.
Belle soirée à toi. On rappelle évidemment qu'on va reparler de ce match ô combien important. Nous sommes à J-2 du choc entre l'OL et l'OM. On vous attend dans l'Afterfoot après le match entre Brest et Lens. Ça sera donc autour des 23h au 32-16 sur RMC. Vous connaissez évidemment le numéro pour nous joindre. On va faire un petit tour des stades. On retourne à la Mosson avec Julien Landry. Julien, 25 minutes de jeu et c'est toujours Amiens qui mène au score.
Ouais, depuis la 10e minute et ce but de Lutin sur un contre éclair de la part des hommes d'Omarda. Fais attention à ce nouveau contre avec ce ballon au deuxième poteau dégagé par la défense montpelliéraine. Les Montpelliérains qui essayent de réagir. Ils ont même une situation très dangereuse. Beaucoup Franck aime beaucoup. Mendy avait donné le ballon à la porte. Les Montpelliérains pensaient même avoir égalisé, mais l'arbitre a fait faute alors que là, Mendy dans sa réparation, la frappe! Et ça passera juste à côté de la cage de Paul Bernardoni. Les Montpelliérains sont mieux depuis 10 minutes. Ils poussent. Mendy n'a pas cadré sa frappe, mais le danger se rapproche de la cage de l'ancien Nîmois Paul Bernardoni. 26 minutes à la Mosson, 1-0 pour Amiens.
Merci beaucoup. On fait le tour des stades avec toi, Arnaud Valadon. Il y a un choc ce soir, notamment entre Nancy et Pau. Et ça, c'est l'effet Pablo Correa. Il est incroyable, cet entraîneur.
Ah, c'est à la vie, à la mort, entre l'AS Nancy-Lorraine et Pablo Correa, l'ancien joueur et entraîneur qui monte plusieurs fois. C'est beaucoup de je t'aime quand il est à Nancy.
C'est une très belle histoire. Des fois, il l'aime plus.
Quand bien même, le président Rousselot n'est plus là parce que Nancy qui mène 1-0 au but de Ryan Bamba, prêté par le Stade Rennais, le latéral droit. 1-0 pour Nancy qui prend provisoirement seul les commandes de la Ligue 2, donc face à Pau. Red Star, le Red Star a ouvert le score à Bauer sur pénalty. Damien Durand, meilleur buteur désormais du championnat avec 3 réalisations. 1-0 pour les Odoniens face à Annecy. Toujours 1-0 pour Rodez sur sa pelouse face à Boulogne. Et enfin 0-0 entre Dunkerque et Troyes. 0-0 à Francis Levasseur entre Laval et Clermont.
Merci beaucoup Arnaud Valadon. Ne bougez pas, on est ensemble jusqu'à minuit. C'est l'After Live, vous le savez. Dans 20 minutes, le coup d'envoi de votre journée de Ligue 1 avec Lens face à Brest. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
On part à Bollard dans quelques instants. Vous le savez, Lens, Brest, coup d'envoi à 20h45. L'ouverture de la troisième journée de Ligue 2, de Ligue 1. Mais justement, on va d'abord refaire un petit point Ligue 2 avec Julien Landry qui est à Montpellier. Montpellier-Amiens.
Les Montpelliérains poussent, mais ils sont toujours menés par Amiens. Karine, 32 minutes à la Mosson, 1-0 pour Amiens.
Merci beaucoup. Les autres scores avec toi, Arnaud Valadon. Est-ce que ça score un petit peu?
Non, pour l'instant, trois buts et il fait bon jouer à domicile. 1-0 pour Nancy face à Pau. Nancy pour l'instant leader après cette quatrième journée, ce début de quatrième journée. Rodez mène face à Boulogne 1-0 et le Red Star sur sa pelouse mène 1-0 face à Annecy. Et sur les deux autres terrains, les vilains petits canards, 0-0 entre Dunkerque et Troyes et 0-0 entre Laval et Clermont.
Merci beaucoup Arnaud, vous êtes évidemment sur RMC, on est sur toutes les pelouses, Ligue 1, Ligue 2, on est également au tennis à New York. On va retourner à Bollard ce soir. Il y a une très très belle affiche en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. Lens-Brest. On va en parler avec évidemment notre duo de commentateurs Aurélien Tirsain et Jean Baumel. Et puis après, il y aura l'after foot. Vous le savez, on parlera notamment de l'accord total qui a été trouvé entre Villarreal et Miko Tadze. C'est une info évidemment RMC, Fabrice Hawkins. On a tous les détails de cette transaction. Messieurs, ce soir, comme d'habitude à Lens, l'ambiance va être exceptionnelle. On va peut-être faire un petit point sur les compositions d'équipe, le 11 de Pierre Sage avec toi mon cher Jean Baumel.
Exactement Karine, avec Risser dans le but, une défense à 3 avec Udol, l'ancien Messin, Malang Sarré, Jonathan Grady, les pistons à gauche, Machado à droite, Aguilar au milieu de terrain, Thomasson, et on va aussi voir Sangaré puisque Diouf est parti à l'Inter, le Malien donc qui est titulaire. Les joueurs offensifs, Wesley Saïd à gauche et Florian Thauvin à droite, et le jeune Ryan Fofana, auteur d'un but au Havre, pur produit de la formation lensoise. Alors qu'on annonce Roger Rudinski, c'est l'ancienne voix de Bollard. Pour ceux qui ont connu, c'était dans les années 90-2000, l'année du titre. 23 ans, speaker de Bollard qui nous a quittés hier.
Merci beaucoup. On rappelle pour l'instant que Lens a pris 4 points après 2 journées du côté de Brest. C'est plus compliqué. Un seul point pris par les hommes d'Éric Roy. Aurélien, Éric Roy qui doit faire un 11 de départ, malheureusement amputé de départ très important lors de ce mercato.
Oui, exactement. Il y a plus de Marco Bizot, ça on le savait, plus de Madi Camara, on le savait aussi, il est à Rennes désormais. Et Pierre Lesmelou jouera après-demain avec le Paris FC au stade Jean-Bouin pour la grande première du club parisien. Donc cette équipe brestoise avec Radoslav Majewski, le Polonais dans les cages, Junior Diaz et Julien Le Cardinal en charnière puisque Brendan Chardonnay, habituel capitaine, est blessé. Kenny Lala à droite, Brandeloco à gauche, Joris Chotard et Hugo Magnetti à la récupération, et puis un quatuor offensif mené par Romain Del Castillo avec Camori Doumbia et Baba Baldé en soutien évidemment du buteur Ludovic Ajorc.
Merci beaucoup. Mais si on va faire un petit point du côté de Lens, tu nous l'as dit, Jean Baumel, Pierre Sage voulait des joueurs offensifs, il y en a un qui a signé, et la semaine pourtant elle a été vraiment agitée parce qu'il y a eu l'imbroglio, on rappelle Sinayoko, le joueur d'Auxerre qui finalement n'est jamais arrivé.
Oui, c'est vrai qu'il y avait un accord entre Lens et la JOCR pour l'arrivée donc de la Sim Sinayoko. D'ailleurs, les Lensois avaient autorisé et étaient d'accord pour que Christophe Pélissier, le coach de la GIA, utilise son attaquant durant le week-end. Et puis Lens attendait l'arrivée donc de l'attaquant auxerrois. Il n'est jamais venu à Lens. Le lendemain, pas de nouvelles. Et puis bah, le joueur n'a pas voulu aller au bras de fer et Lens a décidé donc de laisser tomber ce dossier et s'est rabattu sur celui d'Abdallah Sima en provenance de Brighton, qui a été d'ailleurs prêté il y a quelques temps à Brest. Mais c'est plus un joueur de côté offensivement. Il y a le dossier aussi Guilavogui qui devait partir à Southampton. Finalement, s'il n'y a pas eu d'accord entre le club de Championship et Lens. Il pourrait encore partir d'ici lundi soir, hein, le mercato se termine à 20h. Mais moi je sais que Lens cherche encore un attaquant de pointe, car ils en ont besoin. Le jeune Ryan Fofana c'est bien, mais Guilavogui ou même encore Satriano. D'ailleurs le nom de Satriano circule du côté de Lyon, ça c'est étonnant, mais on sera jamais surpris dans le foot.
Ah oui.
Ça c'est certain, mais oui, il y aura, s'il y a recrutement à Lens, ça sera du côté de l'attaque.
Jibo, tu dis le Sinayoko voulait aller au bras de fer avec
non,
les
Lens. Il voulait pas.
Il a été classe avec son club formateur. Voilà.
Ah ok.
Il voulait pas aller au bras de fer.
Ah, voilà.
Ok.
Voilà. Ça a été un moment évoqué. Lui a dit ben non mais c'est pas. Alors moi je le connais pas. Toi tu le connais peut-être mieux que moi.
Très bonne mentalité.
Et il paraît que c'est un gentil. C'est pas le style à faire ça. Donc,
exactement. Voilà. C'est pour ça.
Non, il n'est pas allé au bras de fer avec son club formateur et on parle même peut-être d'une prolongation.
Oh, je pense que c'est ce qui va se passer.
Voilà.
En tout cas, on l'espère tous à Auxerre.
J'imagine bien. Aurélien, avec toi on l'a dit. Hein, Eric Roy vit un été difficile. Il y a des joueurs majeurs qui sont partis, mais il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a un joueur qui va arriver à Brest. C'est Dina Ebimbe, mais la visite médicale est prévue que demain.
Oui, exactement. Donc on le verra pas ce soir évidemment, mais ça ressemble quand même à une bonne pioche pour le Stade Brestois. Il était joueur du Paris Saint-Germain, il était parti à Francfort en Allemagne, il a assez peu joué finalement en fin de saison dernière, mais c'est quand même un club de top niveau en Bundesliga. Il a joué plus de 80 matchs, il a marqué 15 buts. Il y a quand même beaucoup de qualité chez ce garçon. C'est une surprise, Lionel, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une surprise de le voir arriver à Brest, parce qu'il pouvait peut-être prétendre à des écuries à minima européennes. On peut penser à des équipes de Ligue Europa. On va pas citer de club en particulier, mais voilà, le voir arriver à Brest, c'est un vrai bon coup pour les Bretons.
Bah oui et non, parce que franchement les Brestois, quand tu les vois jouer, quand tu connais l'ambiance du club et tout ça, t'as encore des joueurs qui ont la tête sur les épaules et qui veulent aller dans des environnements qui sont où ils vont être considérés comme des vrais joueurs, où il y a vraiment une ambiance et ils sont mis dans un cocon. Et Brest est un club, franchement, quand tu regardes sportivement ce qu'ils ont fait l'année dernière au niveau européen et au niveau aussi bien évidemment du championnat français, quand tu regardes comment ça se passe, l'ambiance du vestiaire et tout ça, tu te dis bah ça donne envie pour certains joueurs, et heureusement qu'il y a des joueurs comme ça.
Alors, en tout cas, on est très content effectivement pour les Brestois. Ça serait la 5e arrivée du côté de Brest avec beaucoup de départs. On rappelle, merci beaucoup messieurs, on a toutes les informations avant le coup d'envoi entre Lens et Brest. C'est l'heure de parier.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Lens, Brest, ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Bonsoir Johan Guillet, qu'est-ce que tu nous concoctes de beau?
Messieurs, dames, bonsoir.
Salut.
Déjà au niveau des cotes, on peut s'amuser. 1,92 la victoire de Lens, le nul est à 3,65, Brest est à 3,75. Il y a deux paris qui me plaisent bien. Lens qui ne perd pas, les deux équipes qui marquent, ça nous permet de doubler la mise. Et si on ajoute à ça dans un my match Ajorque ou Saïd buteur, ça nous permet de tripler la mise.
Lionel ?
Bah moi je te suis. Les deux marques je prends. Par contre je vais aller sur un nul mi-temps.
Ah,
en plus de Lens ne perd pas.
Tu veux que je te rajoute le nul à la mi-temps en plus de Lens qui ne perd pas? Alors ouais. Déjà le nul à la mi-temps, si toutefois il veut bien s'afficher, il est coté à 2,10. Et si je te rajoute en plus de ça Lens qui ne perd pas, on monte à 2,70.
Avec les deux marques
et avec les deux équipes qui marquent,
on est à 4.
4,60, c'est magnifique.
Oh, c'est beau.
C'est une belle cote.
On va répondre mon lieu ce soir, je le sens bien.
Tu sens?
Ouais, complètement.
Merci beaucoup Yann.
Celle qui a du pif c'est Karine quand même.
Non,
je sens pas.
Si j'étais bonne en Paris, ça se saurait. Non, je serais milliardaire, ce qui n'est pas le cas.
Tu serais pas là?
Non, je serais là, bien sûr.
Aucun de nous ne serait d'ailleurs.
Je suis très heureux d'être sur RMC. Merci beaucoup, mon cher
Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
On est ensemble sur RMC pour une grande soirée de foot jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à minuit. Il y a l'after live pour le moment, il y aura l'after foot après. Un tour des pelouses de Ligue 2 rapidement. Julien Landry à la Mosson, ça joue.
Ouais, Montpellier trouve pas la solution. Pour le moment, toujours mené par cette équipe d'Amiens depuis la 10e minute et l'ouverture du score de Lutin.
Et les autres rencontres avec toi, Arnaud Valadon.
Et l'égalisation paloise à Nancy dans ce choc entre équipes invaincues à partout désormais entre Nancy et Pau. L'égalisation de Benard après un travail, il faudra le retenir, de Paté Mboub, celui-là, 21 ans, un ailier droit sénégalais absolument prometteur. Toujours 1-0 entre Rodez et Boulogne et 1-0 entre le Red Star et Annecy et 0-0 entre Laval et Clermont ainsi qu'entre Dunkerque et Troyes.
Merci beaucoup Arnaud, on se retrouve dans quelques instants. Le coup d'envoi du match entre Lens et Brest, c'est sur RMC. A tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. On est ensemble jusqu'à minuit sur RMC. On accueille tout de suite Kevin Diaz. Bonsoir Kevin.
Salut Karine, salut à tous.
On va vivre donc le match évidemment entre Lens et Brest. Lionel Charbonnier, ne vous inquiétez pas, il revient juste après le match pour l'After Foot. Julien Landry est à la Mosson, on vous le rappelle parce qu'on suit également tout ce qui se passe sur les pelouses de Ligue 2. Mais tout de suite, le coup d'envoi à Bollard, Lens-Brest. On va se régaler avec vous messieurs. Tout est réuni pour qu'on ait un grand match ce soir. Aurélien Tirsain et Jean Baumel.
Exactement, 69e guichet fermé de suite pour le Racing Club de Lens et le Stade Bollard. Bon, ça devient une habitude, hein, le stade, on sait, il est trop petit, 38 223 spectateurs, c'est pas assez Aurélien. En tout cas, l'ambiance, on n'a aucun doute, on espère surtout, c'est que sur le terrain, on se régale. Le jeu lensois, quand même, face à Lyon et même dimanche dernier au Havre, c'était plutôt intéressant. Le coup d'envoi vient d'être donné.
Avec un long ballon de Julien Le Cardinal, voilà, Lens-Brest, effectivement, les 100 et or qui pour l'instant réalisent un début de saison intéressant avec des contours de l'effectif qui ne sont pas encore tout à fait terminés, alors que Florian Thauvin, la recrue star, le numéro 10, le meneur de jeu, a pris le ballon au très mauvais endroit. Il va respirer un grand coup et la touche brestoise va pouvoir se jouer avec Bradley-Loco sur le côté gauche et Ludovic Ajor qui ne pique pas le ballon à Jonathan Gradit, un des grands anciens du Racing et qui peut dégager dans le camp brestois.
On est parti depuis 40 secondes, 0-0. Ouais, tu l'as dit, hein, c'est le plus ancien sur la pelouse du Racing Club de Lens. Il y en a un autre qui est sur le banc, c'est Florian Sotoka. Le ballon qui circule dans les pieds et des Brestois, ça ne dure pas longtemps, si, avec une balle en retrait pour le Cardinal, et ça va permettre aux joueurs de Brest de repartir sur la droite avec Del Castillo qui rate son contrôle et ça profite au Lensois au milieu de terrain.
Allez, peut-être une occasion pour Florian Thauvin qui décale Ryan Fofana intelligemment. On est à 40 mètres des cages de Robin Isser, de Radoslav Majet, qui est plutôt le gardien brestois, mais bon retour défensif des joueurs bretons avec Camoré Doumbia notamment en retrait pour Joris Chotard qui va voir son rôle, voilà, d'équilibre au cœur du jeu brestois, et ça peut filer vers l'avant intelligemment pour les Bretons.
Ouais, Del Castillo qui lance en profondeur. Il y a un coup à jouer avec le ballon et pas récupéré par Mama Baldé. Le ballon qui est dégagé par la défense lensoise. Bradley Loco qui va essayer d'éviter que le ballon ne sorte. C'est fait. Il va passer. Attention, il y a danger. La sortie impeccable. Jaillissement et contrôle de la part de Jonathan Gardy qui rate sa relance. 0-0, 1,45 de jeu. Grosse ambiance à Bollard pour l'instant. On s'observe. Hein. On perd pas mal de ballons. Le centre dégagé par la tête de Ballon de Sarre.
Ouais Kevin, peut-être salut déjà, je sais pas si on s'est salué.
Salut Kevin. Salut.
Non mais pour l'instant, début de match intéressant des Brestois, je disais, avec Chotard qui est arrivé. Alors, il y a pas mal de départs, mais voilà, toujours des cadres et un début de match pas inintéressant.
Mais on va surtout découvrir, en tout cas moi, le petit jeune Fofana là de près, parce que c'est vrai que cette équipe lensoise, elle a été remaniée comme tu le dis. Après, ça reste un système qui maîtrise plutôt, et on va aussi beaucoup quand même surveiller cette équipe de Brest qui doit absolument prendre des points dans ce championnat.
Ouais, parce que le premier match, on le disait en avant-match, a été plutôt bon contre Lille. Voilà, début encaissé, un 3 partout avec Radoslav Majetski qui a pas encore rassuré grand monde. Mais offensivement, c'était bon. En revanche, à Toulouse, c'est un non-match, une défaite 2-0 au Stadium. Et là, il y a une occasion de faire mal à Lens, parce que mine de rien, 4 victoires, 7 défaites en 2025. Bollaert n'est plus du tout.
C'est
l'inverse.
Impressionnant
même,
pour les adversaires.
Ouais, ils étaient 12 ou 13e au classement des équipes à domicile. Donc c'est vrai que Bollaert veut être redevenir une forteresse imprenable. Attention avec Ryan Fofana. Côté gauche dans la surface. C'est dégagé. C'est bien joué de la part des Brestois qui concèdent le corner, certes, mais c'était la meilleure solution de la part du capitaine Brendan Charlonnet. Et le corner à suivre pour les 100 et or, le premier de la partie, 3 minutes de jeu, 0-0. Et c'est Adrien Thomasson qui va le tirer.
Oui, 350e match de Ligue 1 d'ailleurs pour le capitaine du Racing Club de Lens. Il a joué à Evian, à Nantes, à Strasbourg et désormais à Lens. Il le tire court avec Florian Thauvin. La remise en deux temps sur Adrien Thomasson. Bon, c'est moyennement joué pour le moment. Il y a la chute de Joris Sautard. On va transmettre en retrait à David Machado. Florian Thauvin qui va crocheter du pied gauche, qui va peut-être enrhumer Hugo Magnetti qui va accélérer. Le champion du monde, le centre est intéressant. Tête défensive de Ludovic Ajorg.
Bon, Florian Thauvin, c'était déjà Florian Thauvin qui, sur l'action précédente, a trouvé un renversement là de 40 mètres pour écarter sur le couloir gauche. Et là, il nous régale avec toujours son élégance et son pied gauche avec un très très beau centre.
Et on en attend beaucoup, hein, messieurs, Florent Thauvin, parce que face au Havre, il était passé à côté de son match. Hein. Il avait été très discret.
Il peut être passeur sur corner, Karim. Le deuxième corner, c'est parti. Au deuxième poteau, la reprise, c'est contré. Ça reprend encore. Et le ballon qui passe à côté, c'est incroyable. Je crois que c'est Malang-Sarr. Qu'est-ce qu'il faisait là, Malang-Sarr? Il était en position d'attaquant, le ballon qui a été encore contré. Mais au final, ouais, il y a eu pas mal de tirs. Contré par les pieds des joueurs brestois. Et ça se termine. Contré à ras du poteau. Nouveau corner pour Florian Thauvin.
Bon, la défense bretonne, la rage totale, mais qui s'en sort miraculeusement après la triple occasion de Malang-Sarr. Ça va arriver dans le petit filet à 3 cm du poteau gauche de Radoslav Majet, qui est deuxième chance pour Florian Thauvin, qui va le tirer au deuxième poteau. La tête de Malang-Sarr, justement. Reprise de Wesley Saïd, la défense bretonne qui s'en sort avec Amoré Doumbia qui peut peut-être contrer, mais David Machado,
ah, il va vite, hein.
Très rapide David Machado. 0-0 entre Lens et Brest après 5 minutes de jouer.
Et c'est la mi-temps en Ligue 2. On va retourner à la Mosson. Julien Landry, Montpellier-Amiens.
Ouais, 1-0 pour les Amiénois. Ouverture du score dès la 10e minute par Lutin. Les Montpellierains ont tenté de réagir par l'intermédiaire de Mendy et Mboukou. Ils n'ont pas trouvé la faille pour moi dans la défense d'Amiens. 1-0 pour les hommes d'Omardaf.
Merci beaucoup, Julien. On se retrouve dans quelques instants pour la reprise sur les pelouses de Ligue 2. Arnaud, 4e journée. Et franchement, Pablo Correa, l'effet Pablo Correa. Moi, à chaque fois que je vois un but de Nancy, je me régale.
Et oui, le capitaine Nicolas Saint-Ruf qui permet à l'AS Nancy-Lorraine de virer en tête à la pause. 2-1 face à Pau. Pas d'autre but sur les autres pelouses. 1-0 pour Rodez à la mi-temps face à Boulogne. 1-0 pour le Red Star face à Annecy. 0-0 entre Laval et Clermont. Et 0-0 entre Dunkerque et Troyes. Et Nancy, leader de Ligue 2.
La folie à Pico, la folie sur la place Stanislas.
La folie sans public, hein, parce que c'est à huis clos. Moi, place Stanislas, là, oui.
Ah oui, place Stanislas, c'est la folie, là. Moi, j'ai des souvenirs à Marcel Pico. On se gèle en plein hiver, mais c'est toujours magique d'y être, que ce soit en National, en Ligue 2 ou aussi, évidemment, en Ligue 1. On part à New York, retrouver Eric Salio. Eric Salio, Marino, pas mal, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, notre petit Français?
Parce qu'il a un jeu tellement atypique. Adrien Marino a pas le premier set, certes, face à Shelton, mais il mène 4 jeux à 2 face à l'Américain, 6e mondial. Karine, il faut savoir que Marino avait battu Ben Shelton à l'Open d'Australie 2024 à l'issue d'un marathon de 4h43. Donc il connaît la recette. Maintenant, la route est encore longue. Donc 6-3 Shelton, mais 4-2 Marino.
Merci beaucoup, Eric Salio. On retourne à Bollaert. On te rappelle 7 minutes de jeu entre Lens et Brest. Pas de but pour l'instant. Et nous vivons ce match avec Jean Baumel et Aurélien Tirsain, messieurs.
0-0, 6 minutes 40 et un coup franc très intéressant pour les Lensois. Alors une occasion lancée par Florian Thauvin qui a été bousculé par Bradley Loco, le latéral gauche brestois qui se jette sur le ballon, mais Jonathan Gradit aussi, il veut faire une petite pichenette passée par-dessus le latéral brestois et il obtient une très bonne faute.
Ouais, ils sont plus en jambes, Lensois. Les Lensois sont plus dangereux, hein. Ils ont la main
plus cohérent, ouais.
Ouais, la main sur ce début de match avec les coups francs. Bon, il y a eu un corner tiré par Thomasson. Je pense que tous les coups de pied arrêtés vont être désormais tirés par Florian Thauvin et son pied gauche. On est complètement décalé à droite à 1m50 de la ligne de touche et donc le feu vert qui est donné par l'arbitre. C'est parti au premier poteau et c'est dégagé par une tête brestoise malgré la sortie de Majeki. On joue rapidement à la touche côté Lensois, mais trop rapidement après.
Il y a un Brestois qui est au sol, qui a dû prendre un coup, mais voilà, Kevin, c'est très bien tiré de la part de Florian Thauvin. C'est rasant, c'est ce qu'il faut faire.
Ouais, là c'est très très bien tiré, même fort au sol, surtout qu'on a une petite coupure de l'image là, et je peux te dire que
bien
je peux
joué.
Te décrire ce centre de façon parfaite.
Non, alors c'était à mi-hauteur, mais c'était effectivement rasant. Et Radoslav Majewski qui... un petit peu fébrile encore, hein, Gibault. Il a mis des points, mais devant lui, il y avait les défenseurs brestois. Il s'en sort bien quand même.
Bah, il est très inquiétant, ce gardien. Moi, je comprends pas pourquoi Brest est allé dessus. Hein. Quand tu vois ce qu'il a fait à Monaco, c'est quand même pas l'assurance tout risque.
Hein. Oh, perte de balle, attention, mais on peut jouer avec Ferran Torres. On ne serait pas sur ballon en retrait. Oh, c'était pour Ryan Fofana, c'est dégagé par la défense brestois. C'est pas fini. Un nouveau centre qui vient d'Aguilar. Et cette fois, pour le coup, ah, voilà, Karine, c'est bien sorti.
Superbe sortie.
Comment ça marche, Karine, ça marche comme ça. On a l'habitude. Voilà.
Il est gardien professionnel, les gars.
Et quand il est pas bon, tu dis il est pas bon, il fait un truc bien. C'est, ouais, ça nous arrive souvent, t'inquiète pas.
Je la trouve dure, Karine, sur Majewski. Franchement, il fait une belle saison l'année dernière en plus.
Mais attendez, après des supporters monégasques, le nombre de points qu'il leur a coûté, de toute façon, les deux, hein, que ce soit Majewski ou Kane, c'est bien le problème. Mais les deux ont coûté des points à leur équipe. Et là, sur le match précédent, il leur a coûté aussi déjà des points face à Toulouse. Je suis désolé.
Ouais, ça fait un paquet de temps que Monaco cherche un gardien fiable et. Dans ses buts, hein, ça a pas mal tourné quand même.
Ah oui, oui, non, mais c'est un problème depuis des années. Évidemment, le dernier bon, c'est Subasic, donc ça date forcément. Mais bon,
exactement.
En tout cas, on espère que Majewski va réussir à Brest, surtout qu'il a quand même fort à faire. Passer derrière Bizot, c'est compliqué. On lui souhaite le meilleur, mais moi, franchement, il ne m'a pas rassuré sur les deux premiers matchs, messieurs. Je suis désolé.
Ouais, pour l'instant, c'est encore en rodage, dirons-nous. On va lui laisser sa chance. Évidemment, c'est la troisième journée de Ligue 1. Sur le banc, il y a Grégoire Coudert, joueur formé au club, qui a eu quelques petites chances la saison dernière. Malheureusement pour lui, il a joué notamment le barrage retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Il en a pris 7. Donc, des souvenirs mitigés, on va dire, pour le jeune. Alors, je dis le jeune, il a déjà 25 ans, Grégoire Coudert, malheureusement pour lui, et Majewski a le même âge. Donc, l'horizon est peut-être bouché pour lui à Brest. La 10e minute entre Lens et Brest, 0-0 pour l'instant. Des situations plus pour les Lensois, et notamment cette triple occasion de Malang Sarr qui a vu sa reprise contrée par un défenseur brestois et échoué à 3 cm du poteau droit de Radoslav Majewski.
Et pour l'instant, pas de but, on le rappelle, entre Lens et Brest. On est ensemble jusqu'à minuit sur RMC et on vit en intégralité le match entre Lens et Brest. À tout de suite.
RMC, l'After Live.